Voici La politique aujourd'hui avec Bernard Drainville au 95.7 Kick.
Monsieur Drainville, bon matin.
Salut, Dominique.
On va jaser un petit peu de livraison à domicile des restaurateurs. J'ai jasé avec un restaurateur tantôt à propos justement d'Uber Eats, DoorDash, puis comment ça fonctionne. C'est épouvantable les frais qu'on charge aux restaurateurs.
Bien, c'est ça. C'est ça. J'ai du nouveau dans ce dossier-là. Tu sais que le gouvernement avait demandé à Uber Eats, DoorDash et Skip the Dishes de limiter volontairement les frais qu'ils exigent, justement, des frais qui peuvent atteindre 30 % de la facture. Et là, tu en as 2 sur 3 qui ont envoyé paître le gouvernement. Je vais te dire lequel a accepté dans un instant. Là, je ne sais pas là, jusqu'à quel point je dois remettre la table pour le sujet. Dominique, si tu me dis que tu en as parlé un peu plus tôt, là, mais je résume. Mettons sur une pizza de 15 piastres, là, les plateformes peuvent demander jusqu'à 5 $, 5 des 15 $, donc 30 % de l'argent que tu verses au restaurateur, il est obligé de prendre le 5 piastres puis de le donner à l'une des plateformes là, avec laquelle tu as commandé ta pizza. Puis évidemment, ben toi, en plus de ce que le restaurateur va verser à Uber Eats, Skip et DoorDash, toi, tu vas payer, mettons, un 4 piastres pour la commande, là.
Oui.
Fait que c'est sûr que le confinement là, puis la pandémie, ça a été une véritable mine d'or pour ces compagnies-là. Là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Alors là, le gouvernement, justement, André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture puis de l'Alimentation, il a dit, là, vous allez vous plafonner. Vous allez limiter ça à 15 % de la facture pour la livraison puis 20 % pour tous les frais, y compris la livraison. Ça n'a pas d'allure, 30 %, c'est trop.
Bien, nous autres, écoute, le restaurateur à qui j'ai parlé, évidemment, ouais. Beaucoup de restaurants, il m'a dit, j'ai réussi à me négocier 22 %. Mais tu sais, on fait entre 2 et 4 % de profit à la fin de l'année sur notre nourriture. Là. Fait que là, un moment donné, quand je donne 22 % de plateforme, calcule comme tu veux, on n'arrive pas. Là.
Voilà. Alors là, si je prends ton restaurateur, mettons là, que c'est juste des frais de livraison à 22. Bon, mais la proposition de la montagne limiterait ça à 15. Fait qu'il récupérerait un 7 % de profit, entre guillemets. Là.
Mm-hmm.
Sauf que Uber Eats, on dit non. Je l'ai su hier soir. Uber Eats ont dit non à la proposition du ministre de l'Agriculture de se plafonner volontairement. DoorDash ont dit non. Il y a juste Skip the Dishes qui ont accepté de se plafonner de leur propre chef. Apparemment, ils vont commencer à se plafonner dès cette semaine.
Tu sais, Bernard, c'est normal. On attend qu'ils soient en position de force. On est donc bien en retard sur tout ce qu'il y a d'applications et d'informatique au gouvernement du Québec. Là. Peu importe la couleur du parti en passant. Là. Airbnb, Spotify, Netflix, Apple, on les a toutes pognées dans le détour une fois qu'ils avaient le bon nombre de clients pour dire non. On les voit pas venir.
Oui, mais là, Martinus, là, c'est pas ça l'affaire. Là le gouvernement va faire ce que la Colombie-Britannique puis l'Ontario ont fait. La proposition que le Québec a faite, là, c'est déjà la loi en Ontario puis en Colombie-Britannique.
C'est ça, je te dis. Il est trop tard. On est trop tard. Ils ont le gros bout du bâton.
Il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour plafonner, Martin. Là, si le restaurateur, au lieu de payer 30 ou 22 % il paye juste 15 %,
je comprends ce que tu dis, Bernard, mais
quand
je te dis qu'il est trop tard, c'est qu'ils vont dire non. Ils n'ont pas...
Ah, mais il y en a 2 sur 3 qui ont dit non, mais ils ne pourront pas dire non bien longtemps si la loi est votée ou si le décret est adopté. Ils vont être obligés. C'est ça que je te dis. Là, le gouvernement, il va bouger là-dessus. Évidemment, le Parlement roule au ralenti à cause de la pandémie. Mais moi, ce que je comprends là, de sources gouvernementales, c'est qu'à Québec, ils évaluent la possibilité de passer par un autre chemin. Est-ce que ça va être un décret ou autre chose? Mais en tout cas, ils vont leur rentrer dans la gorge, le nouveau plafond. Ce qu'ils ne veulent pas faire volontairement, le gouvernement va les obliger à le faire.
Mais tu sais, l'affaire, c'est que ces compagnies-là, je pense que, à part celle qui a accepté, c'est Skip qui a accepté.
Ouais.
Les autres n'ont qu'à bien se tenir. Parce que, un, il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là. Deux, quand les restaurateurs vont reprendre le contrôle de leur salle à manger après la pandémie, là, il y en a qui vont s'en souvenir. Puis ils vont perdre du chiffre d'affaires, là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont y mettre dehors à coup de pied dans le derrière.
Ouais, ben, ou encore, ils vont n'en prendre qu'un seul qui a justement collaboré, puis qui était un petit peu solidaire de leurs difficultés qu'ils vivent comme restaurateurs. Tu sais, je veux dire, moi, je ne ferai pas de publicité à matin, là, mais m'a dire une affaire. Moi, je les utilise un petit peu, ces plateformes-là. Bon, j'en utilise une, en fait. Puis là, tu peux être sûr que si Uber Eats font rien, là, s'ils continuent à boquer, comme on dit, là, moi, je vais utiliser l'autre, là, je vais utiliser Skip the Dishes, là, au moins, je vais donner une chance à mes restaurateurs, là, tu sais. Puis j'ose croire que il y a d'autres personnes qui vont faire comme ça aussi. Tu sais, si les restaurateurs s'aperçoivent que Skip de Deschuse les siphonne moins, on peut penser que tu as des restaurateurs qui vont dire gars, Uber Eats puis DoorDash, je fais pas affaire avec vous autres, moi je vais faire affaire juste avec Skip là. Parce qu'au moins, eux autres, ils me donnent une petite chance. Là.
Absolument. Puis c'est ce
mais il faut que la concurrence... Tu as raison de dire qu'il faut que la concurrence joue, là. Puis Martin, es-tu toujours là?
Ben oui.
Je suis là, je suis même en maudit, parce que je trouve qu'on est toujours en retard dans ces affaires-là. On attend toujours que le mal soit fait.
Oui, mais là, une fois que le mal a été fait, on peut essayer de le réparer un peu.
Oui, mais je demeure convaincu, puis là, c'est une supposition que je fais, là. Je demeure convaincu que si le gouvernement avait un ministère de l'informatique, là, tu sais, un ministère que sa job, c'est de regarder sur le radar les genres d'innovations qui s'en viennent, puis comment on peut les régir avant qu'ils deviennent trop gros. Tu sais, on regarde des affaires comme Spotify qui donne des grenailles à nos artistes, des affaires comme Netflix qui font pas de production canadienne, puis qui nous rient d'en face. Ces compagnies-là nous rient d'en face parce qu'elles sont trop fortes. On attend qu'ils soient trop forts.
Mais c'est pas le seul domaine, Martin, où les gouvernements sont à la traîne, là. Les innovations technologiques arrivent avant la loi, là. Ça, c'est pas nouveau, là. C'est le même depuis le monde est monde.
Comme
là.
Les virus arrivent avant l'antivirus, tu sais.
Non, je comprends, mais il me semble qu'on devrait les voir venir quand ils s'installent en disant, bon, ben garde, ça sera comme ça que ça va être fait, tu sais. Le cadre, c'est celui-là.
C'est sûr qu'il y a des cas là, où ça a ben trop brento traîné. Là, Uber, avec l'industrie du taxi, là, c'est ridicule. Là.
Airbnb, c'est pas loin d'être ridicule non plus. Là.
Ils nous riaient d'en face. Ils payaient pas le taxe. Ils payaient pas les impôts. C'était l'enfer. Mais non, mais objectivement, tu as raison, Martin, mais je sais pas jusqu'à quel point, tu sais, je veux dire, de demander à un État, à une bureaucratie, peu importe le gouvernement, d'être en avant des compagnies qui créent littéralement des nouveaux produits, des nouvelles plateformes, des nouvelles technologies. Je ne suis pas sûr que c'est réaliste. Moi, je pense que si tu veux, t'es pris pour réagir. Mais là, au moins, réagis, Christy de bâtard. Je veux dire, là, il y a des moyens pour le serrer zoui un peu puis faire en sorte qu'ils soient moins gourmandes. Parce que là, écoute, c'est des vampires, ces maudites plateformes-là.
Ouais.
Ils sont en train de saigner nos restaurateurs qui ont de la misère à arriver.
Ah, puis ils se sont servis de la pandémie en plus pour le faire. Parce qu'avant la pandémie, c'était plus ou moins populaire. Il y en avait, mais c'était pas autant que là.
Mais non, la pandémie, ça a été une super rampe de lancement pour ces plateformes-là. Écoute, ils font de l'argent comme de l'eau.
Ouais, mais
t'ouvres ta TV, t'ouvres tes médias, que si t'es bombardé de publicité de ces plateformes-là, pourquoi tu penses?
Il y a une affaire.
Ils en font du cash, là.
Les gens se rappellent des profiteurs. Tu sais, ceux qui profitent des situations là, pour faire de l'argent sur le dos du monde, ça, les gens s'en rappellent. Fait que les DoorDash de ce monde là, sont mieux de se tenir parce qu'après la pandémie, ils vont peut-être pogner le Waterloo. Là.
Écoute, espérons-le. Mais tu sais, des fois, on a la mémoire courte.
Absolument, absolument. Hey, on va parler de bonnes nouvelles économiques pendant qu'on est là. Deux bonnes nouvelles ce matin.
Ben c'est ça. Moi, je me suis dit un matin, on va prendre une petite pause de la COVID, là. Puis vous allez voir la première nouvelle dont je vous parle. Il y a un lien avec le Saguenay, Lac-Saint-Jean.
Mm-hmm.
Je vous ai déjà parlé de la stratégie du gouvernement Legault de mettre en valeur les minéraux stratégiques qu'on a dans notre sous-sol québécois, le lithium, le graphite, le nickel, le niobium, que vous connaissez bien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, ça rentre évidemment dans la fabrication des véhicules électriques, des cellulaires, les ordinateurs, les appareils d'imagerie médicale. Tout ce qui est technologie, justement, on a besoin de ces minéraux précieux, de ces minéraux stratégiques, de ces métaux. Bon, et un de ces minerais stratégiques qui s'appelle le scandium. Le scandium, là, une toute petite quantité de scandium mélangée à de l'aluminium décuple les propriétés de l'aluminium, la résistance au froid, la résistance à la chaleur, la force du métal. Un tout petit peu, là, littéralement, une pincée de scandium va donner une plus grande force à ton métal, par exemple à ton aluminium. Et du scandium, on en a au Québec.
Oh.
Moi, je suis allé à Havre-Saint-Pierre cet été pour mes vacances. Puis, dans la région du Havre, il y a une mine, la mine Thio. Ça, c'est une mine de titane. Moi, je l'ai vu, le titane. Là. Il embarquait le minerai à bord des bateaux. Puis là, le bateau, il remonte le Saint-Laurent vers Sorel-Tracy. Et là, il y a une usine de Rio Tinto à Sorel-Tracy qui extrait le titane des roches. Sauf que dans les résidus, une fois qu'ils ont extrait le titane, dans les résidus, il y a du scandium. Puis aujourd'hui, le gouvernement Legault va mettre un peu d'argent public. C'est moins d'un million. C'est pas un gros montant. C'est juste que le potentiel est très intéressant. Ils vont mettre un peu d'argent public, donc dans un projet d'à peu près 10 millions, pour créer une petite usine, commerciale, une petite usine de démonstration commerciale qui va extraire du scandium, justement, à partir des résidus miniers. Et le scandium, là, je vous le dis, là, c'est fou. Là.
Mais là, c'est quelque chose qu'on vient de découvrir il n'y a pas longtemps, ça, ou on savait? Ben,
on le savait, mais le problème, c'est qu'il n'y en a presque pas qui est produit sur la planète. Mm-hmm. La production mondiale du scandium actuellement, elle est de 10 à 15 tonnes par année. Surtout, c'est rien. Ça se vend 3 000 le kilo, le scandium.
Et boy,
oui.
C'est quand le diamant du métal. Là.
D'une certaine manière. Puis quand je vous dis, c'est pour ça, là, une pincée là, fait un effet incroyable. Là. Alors, imaginez le Québec, on serait en position pour devenir un producteur mondial de scandium pour ne plus dépendre de la Chine. Enfin, c'est la Chine. C'est essentiellement la Chine qui nous approvisionne en scandium présentement. Et la beauté de l'affaire, puis c'est là que je vous dis que ça vous touche, c'est que le scandium qui va être extrait des résidus à Sorel-Tracy, ce scandium-là, ils vont le tester dans le laboratoire de Rio Tinto à Saguenay. Il va y avoir une collaboration entre l'usine de Rio Tinto Ferritistan de Sorel-Tracy et le centre de recherche de Rio Tinto Aluminium au Saguenay pour créer ce qu'ils appellent un alliage mère. L'alliage mère, donc, si je comprends bien, je ne suis pas un expert, loin s'en faut, là, mais créer un alliage donc qui intégrerait du scandium à l'aluminium qui est produit dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour éventuellement produire fabriquer des produits dans le domaine de la haute technologie, par exemple. Moi, je trouve ça, écoute...
Ben, ou encore de la construction, mais à plus grande échelle. Là, t'sais, là, on est capable de faire des ponts en aluminium, mais c'est pas l'idéal. Donc, j'imagine que de faire des poutres ultra légères, mais ultra résistantes, là, ça m'est complètement de changer la donne.
Et voilà. Tu l'as mieux résumé que moi, Dominique. Fait que moi, je trouve ça très prometteur. J'aime ça. Parce que d'abord, c'est notre ressource. On passe notre temps à dire qu'il faut transformer notre ressource chez nous. Là, on prend deux ressources, l'aluminium, l'escandium qu'on extrait donc du titane. On mélange le scandium puis l'aluminium, puis on fait quelque chose de nouveau. On fait des nouveaux alliages avec ça. Puis la recherche et développement se fait chez nous, bien chez vous. En tout cas, moi, je trouve ça très prometteur. C'est une très bonne, très, très bonne nouvelle.
On se fait des panneaux de carrosserie qui ne déchirent pas.
Mais Dominique,
carrosserie d'aluminium, c'est fragile.
Tu es en train de faire exactement la démonstration de ce pourquoi il faut investir là-dedans. Puis Rio Tinto met de l'argent dans ce projet-là. Ils mettent l'essentiel, mais ce n'est pas un gros projet, là. C'est moins de 10 millions.
Ouais, mais c'est
une petite usine. C'est une petite usine donc de démonstration commerciale. Mais ce que j'ai compris à travers mes discussions, c'est que cette usine-là pourra éventuellement produire davantage. On va pouvoir augmenter progressivement la production de scandium à cette usine-là, puis éventuellement, le Québec pourrait être en position pour devenir un joueur international, faire de l'argent, créer des beaux emplois, puis ne plus dépendre de la Chine pour notre scandium, puis développer éventuellement des nouveaux produits comme ceux dont tu parles, avec de l'aluminium, alliage aluminium-scandium. C'est très prometteur. Fait que c'est ma première bonne nouvelle.
OK.
Puis ma deuxième... Ça concerne nos exportations d'énergie verte vers les États-Unis.
Mm-hmm.
Bon. Vous savez, il y a deux projets sur la table. Les deux, c'est 10 milliards sur 20 ans. 10 milliards de courant sur 20 ans pour New York, qu'on vendrait à New York, puis 10 milliards sur 20 ans qu'on vendrait au Massachusetts, mettons Boston. Bon. Dans les deux cas, ça prend des lignes pour amener le courant. Nous autres, on a le courant, on a des surplus, mais il faut construire les lignes. Hier, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a lancé l'appel d'offres pour plusieurs grands projets d'énergie verte. Et à un moment donné, dans son discours, il a confirmé qu'il avait l'intention d'aller de l'avant avec un projet d'énergie verte qui va parcourir 330 000, disait-il, du nord de l'État de New York jusqu'à la ville de New York. Les gars, il y a juste un projet qui fait 330 000 du nord de l'État jusqu'à la ville, puis c'est le projet d'Hydro-Québec. Fait qu'hier, Andrew Cuomo a dit sans le nommer, parce qu'il ne peut pas le nommer avant que l'appel d'offres soit terminé, mais il y a juste un projet qui correspond à ces critères-là, puis c'est le projet d'Hydro-Québec de faire passer une ligne sous le lac Champlain, puis sous la rivière Hudson, puis amener du courant à la ville de New York. Fait que ça, Dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Cuomo, hier, il a pratiquement confirmé que le contrat avec New York allait se faire. Fait que ça, c'est 10 milliards sur 20 ans de nos surplus. Et pendant ce temps, je veux vous dire que l'autre gros contrat, qui consiste à construire une ligne à travers le Maine pour amener du courant donc vers Boston, vers le Massachusetts, il nous manque juste un permis. Ah. Il manque juste un permis. Puis j'ai vu des photos, là. La machinerie est sur place dans l'État du Maine présentement pour commencer à déboiser, puis à déboiser le corridor où vont être installées les lignes.
Ce qui veut donc dire que nos inquiétudes commencent à se tasser tranquillement sur ce projet-là aussi.
Exact. Dans le cas des deux projets, ça avance très, très bien. Le seul celui vers New York, comme je vous dis, ça sent très, très bon. Il va falloir attendre la fin de l'appel d'offres. Mais comme je vous dis, il y a juste un projet sur la table, puis c'est le nôtre. Fait que d'après moi, ça va marcher. Le projet du Maine, c'est plus compliqué. Il nous manque un permis pour construire la ligne. Dans le cas du projet vers New York, ils ont tous les permis. Dans le cas du projet qui passe à travers le Maine, il manque un permis. Et là, c'est le permis du président. Fait que là, Hydro, ouais, son partenaire, ils espèrent que le département de l'énergie va émettre le permis avant que Trump sorte de la Maison-Blanche. Parce que s'ils ne l'émettent pas, ils ne pensent pas que l'administration Biden va dire non au projet, parce que Biden, il est très pro-énergie verte. Mais tu sais, quand arrive un nouveau président, ouais, c'est comme un nouveau premier ministre, il arrive avec sa gang, puis tout, ça peut retarder. Tu comprends?
Là, faut que tu recommences les négos, faut que tu convainques quelqu'un d'autre, puis là, c'est une nouvelle. Ouais, c'est ça.
Il y a un risque. Mais là, dans ce cas-ci, ils espèrent avoir le tout dernier permis d'ici vendredi, parce que Trump, il sort de la Maison-Blanche la semaine prochaine. Ils espèrent avoir le permis d'ici vendredi, et si c'est le cas, la construction commence immédiatement. Je vous le dis, j'ai vu les photos, la machinerie est dans le bois. Ils sont prêts à partir. Ils sont prêts à commencer à déboiser, à couper les arbres, à faire le chemin où serait construite la ligne qui apporterait notre courant donc vers Boston. Puis 10 beaux milliards sur 20 ans. Puis l'autre affaire, ce qui est bien intéressant, c'est que si ces deux projets-là se réalisent, on n'a pratiquement plus de surplus au Québec. Fait que là, ça ouvre la porte à des nouveaux projets comme Appuyat, des projets de champs éoliens. Tu sais, parce que les champs éoliens se construisent beaucoup plus vite, puis l'énergie éolienne est très, très concurrentielle.
J'ai Richard Desjardins, ça a deux. Il fait dire qu'il veut pas. La forêt!
Oui, mais là, il va falloir trouver... Tout est dans l'équilibre, mon Richard. Tu comprends, là? Tout est dans l'équilibre.
Ben, écoute...
Il va falloir qu'ils comprennent que dans les régions, là, la forêt, là, ça reste un moyen de vie. Ça reste un moyen de faire de créer de l'emploi.
Ça reste l'énergie la plus verte.
Puis de faire vivre nos familles. Tu sais, je veux dire, oui, il faut protéger la nature, puis il faut protéger l'environnement, puis écoute, là, Charrette a fait une sacrée belle annonce avant Noël, là. C'est quoi? C'est 14 ou 17 % du territoire québécois maintenant, là, qui est protégé, là, d'une manière ou d'une autre, là. Bon, je comprends qu'on pourrait, puis on devrait en faire plus. Je comprends ça. Mais à un moment donné, on fermera pas les régions, là. On commencera pas à dire que tout ce qui est ressources naturelles, on peut plus y toucher, là.
Absolument.
C'est pas vrai que le Québec va devenir juste Montréal puis Québec, là. Ça arrivera pas, ça, là.
Et ce serait épouvantable. Merci beaucoup, mon cher Bernard. On se reparle lundi.
Salut, passez une belle journée, tout le monde.
Bon week-end. Bye.
Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. Kick 95.7, Saguenay.